Les infos à Washington.
Bonsoir à tous, Bagassi Koura au micro pour ce bulletin d'information. Il est 14h ici à Washington, 19h en temps universel. La nouvelle ce week-end, c'est bien sûr la fin du franc CFA, annoncé historique hier du président ivoirien Alassane Ouattara lors d'une conférence de presse avec son homologue français Emmanuel Macron à Abidjan. Le franc CFA devient l'écho. Le franc CFA va disparaître et laisser sa place à l'écho en 2020, mais conservera une parité fixe avec l'euro. Nous avons décidé une réforme du franc CFA avec trois changements majeurs, dont le changement de nom et l'arrêt de la centralisation de 50% des réserves au trésor français, a déclaré Alassane Ouattara au cours de la conférence de presse. Après avoir acté la fin du franc CFA, symbole de la France-Afrique, le président français Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui à Niamey, au Niger, allié dans la lutte antiterroriste, et a animé une conférence de presse avec son homologue nigérien, où il a une nouvelle fois mentionné qu'il attend que chacun des chefs d'État du Sahel, au nom de leur souveraineté, dise clairement s'ils veulent de troupes françaises dans leur pays ou pas. Les semaines à venir sont absolument décisives pour le combat que nous menons contre le terrorisme, a dit Emmanuel Macron. Nous sommes à un tournant de cette guerre, il nous faut redéfinir plus clairement les objectifs à l'occasion du sommet de Pau dans le sud-ouest de la France le 13 janvier, a affirmé le président Macron aux côtés de son homologue nigérien Mahamadou Issoufou. À Niamey, Macron a participé aussi à la cérémonie d'hommage aux 75 soldats nigériens ayant récemment péri dans l'attaque d'un camp militaire. En RDC, un groupe de 71 rebelles rwandais défaits par l'armée congolaise et près de 1500 de leurs proches ont été rapatriés samedi au Rwanda. Les 71 combattants sont des membres du groupe armé CNRD, le Conseil national pour la Renaissance et la démocratie, une dissidence de la rébellion Hutu des FDLR. Et puis toujours en RDC, une commission chargée d'organiser la commémoration de l'an 1 de l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi en RDC, donc, travaille pour proposer un budget réaliste, inférieur donc à celui de 6 millions de dollars précédemment annoncé. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui de sources officielles. Jeudi, le ministre près de la présidence de la République, André Kabanda Kana, avait annoncé que le gouvernement a prévu un budget de 6 millions de dollars pour fêter l'arrivée au pouvoir en République démocratique du Congo de M. Tshisekedi. Et cette annonce avait aussitôt suscité les critiques de l'opposition et d'autres mouvements citoyens congolais qui ont appelé à l'annulation de ces festivités. En RCA, 6 ans après avoir été renversé, 6 jours après son retour en catimini dans la capitale centrafricaine, l'ancien président François Bozizé, est apparu samedi devant ses partisans à Bangui. Plusieurs milliers d'entre eux s'étaient massés sur un terrain du quartier Boeing dans les faubourgs ouest de la capitale pour apercevoir le président déchu, parti en exil depuis 2013.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Oui, la Turquie augmenterait son soutien militaire à Tripoli si nécessaire et sous toutes ses formes. Déclaration dimanche donc du président Recep Tayyip Erdogan. Une déclaration qui intervient au lendemain de la ratification par le Parlement turc d'un accord de coopération militaire et de sécurité conclu donc le mois dernier entre Ankara et le gouvernement libyen d'Union nationale, le GNA, qui est reconnu par les Nations Unies. Le parquet général soudanais a ouvert une enquête sur les crimes commis au Darfour à partir de 2003. Une enquête visant les responsables du régime d'Omar el-Béchir, destitué en avril sous la pression de la rue. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche le procureur général. La capsule spatiale de Boeing Starliner sans équipage à bord a atterri tôt ce dimanche dans le désert du Nouveau-Mexique, ici aux États-Unis. Après avoir échoué à rallier la Station spatiale internationale, les images retransmises par la NASA ont montré le retour sur Terre de la capsule de nuit après une descente ralentie par 3 grands parachutes. C'était une répétition générale avant l'envoi d'astronautes prévu l'an prochain. La capsule a atterri à 5h58, soit 12h58, temps universel. Merci de nous avoir suivis. Le prochain bulletin, c'est dans moins d'une heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, Eric Manilakiza avec vous ici à Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Ce soir, nous continuons notre série sur les mouvements de jeunes dans les religions et nous parlons de la communauté des béatitudes qui est un mouvement d'action catholique. Eh bien, la communauté des béatitudes est née en France en 1973 et reconnue en 2002 de droit pontifical. Située dans la mouvance du renouveau charismatique, elle regroupe en son sein trois branches, sœurs consacrées, frères consacrés et ainsi que des fidèles laïcs, c'est-à-dire célibataires, couples et diacres permanents qui partagent office liturgique, vie fraternelle et mission. Depuis 2010, la communauté dépend de la congrégation romaine pour les instituts de vie consacrés. En juin 2011, Monseigneur Logal, archevêque de Toulouse, l'a érigée en association publique de fidèles de droit diocésain en vue de devenir famille ecclésiale de vie consacrée. Elle est aujourd'hui présente sur les 5 continents. L'expérience de Pentecôte et la dimension eschatologique sont au cœur de son charisme et qui trouve sa source dans la vie, dans l'esprit, au service de la mission et de la nouvelle évangélisation à travers lesquelles les différents états de vie forgent leur communion. En 2019, la communauté compte 763 membres répartis dans 50 maisons et dans 26 pays. Notre invité ce soir, le père Gérard Mouret, il est curé de la paroisse Sainte-Famille à New York et professeur de droit canonique. Bonsoir mon père.
Bonsoir Eric.
Voilà, la communauté des béatitudes, quelle est sa particularité, son originalité?
Bien, cette communauté d'inspiration charismatique est devenue, il s'appelle Famille ecclésiale de vie consacrée. C'est une nouvelle formation de la vie religieuse. Mais comme vous dites, il y a des fidèles laïcs qui sont attachés à la communauté et qui participent dans la vie liturgique, de prière et aussi dans l'action pastorale. Alors, c'est un signe de la vie catholique en France au commencement et maintenant, comme vous dites, dans plusieurs continents. Et c'est une institution qui, après le Concile Vatican II, ça démontre une vie active dans un pays où le catholicisme, la France, je parle de la France, le catholicisme a beaucoup perdu son influence. Mais cette communauté vraiment vivante a donné beaucoup d'inspiration partout.
Vous avez parlé d'une vie consacrée. C'est quoi exactement?
Bon, la vie consacrée, c'est une manière de parler de ceux qui prend des vœux religieuses pour dédier sa vie à Dieu. Et cette consécration est normalement inspiré par un charisme, une mission dans la vie de l'Église. Alors, la vie consacrée, il y a des religieuses qui sont infirmières, qui sont enseignes, qui dirigent des hôpitaux, qui sont des missionnaires. Il y a beaucoup de domaines d'action des personnes dans la vie consacrée, mais normalement, ça implique qu'on émette des vœux de chasteté, de pauvreté, d'obédience, et qu'on est, on fait la compromission, on fait cette idée de vivre en communauté et de accepter une mission des supérieurs, de ne pas agir seulement sur son propre gré.
Gardez la ligne, mon père, nous aurons des auditeurs tout à l'heure. Je dois souligner que la communauté participe à la nouvelle évangélisation de par ses nombreuses antennes dans le monde et ses diverses activités, organisation de retraites spirituelles, pèlerinage, animation de groupes de prière, accompagnement spirituel. Chaque été, la communauté organise notamment des sessions internationales qui rassemblent entre 500 et 1500 personnes à Lourdes et Lisieux. Et la communauté réalise également des missions d'évangélisation dans les villes, les collèges et lycées, les paroisses ou sur les plages. Nous avons Jonathan Chiswaka en ligne. Jonathan, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous écoute, Jonathan.
Et en parlant de la communauté de Béatitude, c'est une communauté vraiment qui est très importante dans notre partie de terre dans la ville de Kinshasa. Mais en parlant de ce que de renouveau charismatique, alors c'est une vision aussi du renouveau charismatique. Vraiment quelque chose de dangereux pour l'Église parce qu'elle part à l'encontre de la tradition de l'Église. C'est-à-dire, ici, le renouveau charismatique apparaît comme une branche, une église dans une église. C'est-à-dire, le renouveau prend plus tendance à ressembler aux églises, aux pentecôtistes. Les églises de réveil, c'est de vivre c'est de ressembler plutôt à l'église catholique, mais le renouveau tend à ressembler plus à l'église de réveil, plus que l'église pentecôtiste. Et ce temps, je verrai que leur manière de prier et la manière dont on. L'intérieur se renouveler, c'est vraiment très différent. C'était quand même contradictoire avec celle qu'on fait, la manière dont l'Église enseigne.
Jonathan, j'ai entendu votre point de vue. On va demander l'explication du père Moray. Est-ce que Jonathan pense que cette communauté est vue comme une Église dans une autre?
Bon, c'est souvent critique des mouvements dans l'Église, qu'il veut être une Église dans l'Église, mais je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il veut être comme une famille dans l'Église, une expérience organisée pour promouvoir la vie de l'Église selon une spiritualité particulière. Alors, c'est vrai que les communautés de béatitude avaient des problèmes dans le passé. Leur fondateur était sanctionné après des accusations d'abus sexuels et ça causait des problèmes. Il y avait une réorganisation. Le Vatican envoyait un prêtre pour réorganiser la communauté et je pense que c'était nécessaire, mais que ça a eu un succès et que maintenant la communauté est bien établie sur des bases qui sont vraiment bien, qui sont selon l'expérience de l'Église avec des nouvelles communautés. Il y a des problèmes, mais aussi il y a des solutions.
Merci, mon père, de votre précision. Gardez la ligne. Nous avons Sédou Kassongo. Sédou, bonsoir.
Bonsoir, Rio Afrique. Bonsoir, chers auditrices, auditeurs.
Voilà, je vous écoute. Dans votre commentaire, vous faites référence à Matthieu 5.
Certainement, ce verset de Matthieu 5, c'est justement pour la communauté chrétienne, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Certainement, Jésus-Christ parle de béatitude en Matthieu 5. Et lorsque nous pourrions certainement prendre tout ce que Jésus-Christ a parlé et le mettre dans le sens pratique, c'est que les différentes communautés devraient en fait avoir cet amour dont Jésus-Christ fait allusion dans ses enseignements. Il a parlé à ce que l'amour de partout, ça fait partie de ce qu'il nous a enseigné et que toutes les communautés chrétiennes devraient en fait mettre en pratique. Parce que la béatitude ne se limite pas vraiment juste sur ça, mais aussi la béatitude nous demande d'avoir une vie certainement consacrée. Parce que, imaginez, lorsque Jésus-Christ parle de la loi, il dit qu'il nous a été enseigné que ceux qui ont commis l'adultère, non, donc c'est grâce, je vous dis, que c'est lui qui combat. Donc, il veut certainement nous enseigner à ce que nous soyons capables de ne plus nous laisser entraîner par la convoitise de la chair et de toutes ces vanités qui vont passer. En fait, je suis en train de parler pour la communauté chrétienne. Et la béatitude, nous devrions certainement la mettre en pratique pour éviter un monde de conflits. Parce que si nous avons vraiment de l'amour, nous vivrons dans un monde où il y a la paix et il y aura réduction des conflits. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a des guerres, il y a des conflits ethniques, conflits communautaires, des conflits intercommunautaires aussi. C'est parce que nous sommes beaucoup plus incapables de mettre en pratique les enseignements du Seigneur Jésus-Christ que d'avoir un amour pur pour les autres, de chercher la paix pour nous tous et chercher à vivre beaucoup plus dans la compassion pour les autres, aider les autres, ne pas convoiter. C'est un peu en général les enseignements que Jésus-Christ a enseigné en Matthieu 5.
Merci Sédou Kassongo pour votre contribution. Nous allons à Cotonou au Bénin pour retrouver Joël Hunjo. Joël,
bonsoir. Oui, bonsoir, le plateau.
Bonsoir, vous nous entendez?
Oui, 5 sur 5.
5 sur 5, très bien. Voilà, vous dites maintenant ça suffit, il faut que ça change.
Oui, l'air sonné, il faut que ça change.
Je t'écoute.
Oui, et c'est le petit groupe qu'on observe au sein de l'Église catholique, et on ne voyait pas ça au niveau des premiers chrétiens. Au contraire, certains apôtres avaient condamné ça. Et chaque fois quand il y avait des petits regroupements, les apôtres condamnaient et réprimaient ces petits mouvements. Mais grand est notre étonnement que cela s'amplifie au sein de l'Église catholique, où on observe des petits groupes, et cela vraiment ça ne donne pas une bonne image de la du christianisme. Parce que si on rentre dans l'histoire, d'après mes recherches personnelles, j'ai lu beaucoup de choses sur les premiers chrétiens, et les premiers chrétiens devraient normalement nous servir d'exemple et nous devrions emboîter leur pas. Mais observer de petits groupes au niveau des églises, c'est pas du tout biblique. Ils ont la vérité.
Oh, Joël. L'Église
catholique nous a beaucoup caché des choses.
Joël. Oui. Il faut aussi savoir que tous ces mouvements sont des mouvements d'action catholique encadrés par la loi canonique et par la hiérarchie catholique depuis le Vatican. Je vais demander au Père Mouret de vous donner plus d'avantages, de répondre à votre inquiétude. Père Mouret, une précision à notre auditeur de Cotonou.
Oui, si je bien comprends, la question c'est est-ce que il y a l'Église doit avoir des groupes de personnes qui ensemble font un apostolat ou vivent une forme de spiritualité particulière, et je dirais que c'est toujours dans l'histoire de l'Église, dès le commencement, qu'on travaille ensemble avec d'autres frères et sœurs. Et dans l'histoire de l'Église, ils ont établi beaucoup de familles comme les dominicains, les franciscains, et que ce phénomène s'exprime maintenant dans les nouvelles communautés, comme la Béatitude et d'autres. Et la mission ici, c'est de promouvoir la vie de l'Église, la connaissance de l'enseignement du Christ, la vie des sacrements, tout ce qui implique la religion catholique dans la vie des fidèles. Il y a des problèmes, et c'est sûr, mais on ne doit pas dire que l'Église a créé quelque chose contre la volonté de Dieu.
Merci à Père Mouret. Merci aussi à Joël Hunjo pour sa contribution. Il y a notre auditeur de la RDC, c'était Kassongo, qui a parlé des béatitudes et a même cité Matthieu 5. Il y a Eddie Loma qui dit, lui, en Jésus-Christ, il existe pas de béatitude pendant longtemps avec ce genre de choses. C'est la même histoire avec ces pasteurs qui perdent aussi le temps en étudiant la Bible. Je ne sais pas si je suis ignorant. Est-ce que Moïse ou David ont appris la théologie pour annoncer aux autres le vrai Dieu, la bonne parole? Père Mouret, une réponse à notre auditeur Eddie Loma.
Oui, bon, nous croyons que Moïse était prophète, aussi David. Ils ont eu la grâce de recevoir une révélation dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous avons les évangélistes et les apôtres. Et en tout cas, les gens agissent selon la volonté de Dieu. Alors ce n'est pas une chose inutile de suivre le chemin du Christ. C'est vraiment de croire la même chose que les apôtres ont cru au moment d'écouter Jésus qui enseignait pendant 3 ans sa vie publique. Et c'est vraiment la mission de l'Église de transmettre à son propre enseignement, mais ce que Jésus a légué à l'Église, a donné comme la parole vivante pour nous guider vers le ciel.
Joël, vous êtes là, vous nous entendez?
Oui, je vous entends, c'est ce que c'est.
Oui, vous avez suivi les explications du père Mouret.
Oui, j'ai suivi les explications, mais il n'a pas donné de référence biblique, c'est-à-dire des versets bibliques qui donnent raison à créer de tels groupes au sein dans les églises. Moi, je veux des versets bibliques qui peuvent prouver ça, quoi.
Restez là, je vais demander au père Mouret d'apporter plus de précision. Mon père.
Malheureusement, la ligne n'est pas trop bien. J'ai pas bien compris ce qu'il a dit.
Il veut des références bibliques pour justement justifier la création de ces mouvements d'action au niveau de l'Église.
Oui, mais Jésus a dit aux deux ou trois entre vous se réunissent en prière. Je suis avec vous. Je ne peux pas citer exactement le verset, mais c'est bien connu que Jésus a encouragé les apôtres d'agir ensemble et de prier ensemble. Il a envoyé les apôtres deux par deux. Alors, c'est l'action ensemble, l'action communauté, c'est l'expérience de l'Église dès le commencement.
Merci, mon père. Bonne soirée chez vous, Joël, à Cotonou. Euclide, elle parolier, il dit, comme chrétien, en tant que chrétien catholique, j'espère que concernant la communauté des béatitudes, je voudrais savoir la réalité de cette initiation. Lui parle de initiation. Lambert Chileux, il dit, en tant que catholique, je suis curieux d'en savoir davantage. Malheureusement, il n'y a pas moyen de suivre VOA Afrique sur FM, le signal ne passe plus ces derniers temps dans la ville où je me trouve, mais je mènerai des recherches pour en savoir davantage. Vous pouvez aussi aller visiter notre site voafrique.com. Vous pouvez suivre cette émission. Jean-Marie Chimanga, il dit, ces mouvements donnent toujours l'idée d'un financement allant dans le sens de l'enrichissement des adhérents ou des membres en Afrique, ce qui n'est pas du tout l'esprit de la lettre et la lettre de leur création. Des mouvements de jeunes ont pour but de leur révéler les défis auxquels ils font face et peaufiner des stratégies et différentes voies en adéquation avec les objectifs pour pouvoir les surmonter, car les responsables de demain sont les jeunes, qu'ils soient de l'Église catholique ou du reste de la société, des familles. Il y a des échanges qui y sont formateurs. Je ne refuse pas le soutien financier de ces mouvements, car l'Afrique est pauvre, mais la perception qu'ont des membres qui intègrent ces mouvements éprouvent la lassitude suite justement à cet aspect financier qu'ils considèrent être flou. Pierre Moutson, il dit « Je suis catholique, mais cette communauté est une nouvelle pour moi et j'aimerais en savoir plus. » Archiduc Théodore, pourquoi la communauté des béatitudes comporte assez de Français? Quelle est la source devenue massive de la communauté des béatitudes? Juste une précision, c'est une communauté qui est née en France. Et la communauté des béatitudes, justement, favorise les vocations et projets missionnaires à travers le monde au service des plus pauvres, malades, orphelins, enfants des rues, personnes handicapées. Les membres consacrés peuvent être appelés à quitter leur pays pour se mettre au service de ces missions. Par exemple, la communauté a fondé en 1982 à Cabinda, en République démocratique du Congo. Là-bas, elle assure depuis la gestion d'un hôpital et d'un centre de nutrition. En 1985, elle a notamment bâti le monastère de Marie, mère du Verbe à Bangui, et en République centrafricaine, lors de la troisième guerre civile dans son pays. En 2013, le monastère accueille dès le mois de mars environ 250 enfants. Puis en décembre, lors de la bataille de Bangui, jusqu'à 17 000 réfugiés, ce qui incite la FOMAC, puis la MISCA, à le protéger militairement. Au bout de quelques jours, à gérer seul l'afflux de ces réfugiés, la communauté reçoit l'aide d'autres ONG caritatives, Caritas, CICR, enfin, PAM. C'est une communauté qui se consacre aussi aux services sociaux, Père Mouret.
Bon, c'est cette description des actions et de la réalité de la communauté des béatitudes m'inspire, parce que ils vont particulièrement en Afrique, dans des situations de difficulté et de pauvreté. Quand vous parlez de République centrafricaine, c'est toujours un souvenir douloureux de la violence qu'ils ont souffert. Mais la présence de tous les membres de l'Église catholique de l'extérieur qui vont en Afrique pour promouvoir la vie de l'Église, c'est toujours une vraie fraternité chrétienne qui s'exprime, et c'est une inspiration que partagent beaucoup d'autres communautés qui veulent établir pour leurs frères et sœurs africains ces différentes formes de vie spirituelle catholique, que ce soit de France ou d'autres pays. Mais la chose importante, c'est que c'est centré sur la vie catholique sous le pasteur suprême, le pape François. Et je note que la communauté des béatitudes a bien souffert des problèmes à cause des graves crimes sexuels de son fondateur, le frère Ephraim, mais que l'Église a bien sûr noté les plaintes et a fait un jugement contre ce frère. Il était démissionné.
Je dois souligner, Père Mouret, que la communauté a également développé une activité d'édition. Elle possède en effet plusieurs structures pour répandre le message de l'Évangile. La maison d'édition Édition des Béatitudes, l'association Maria Multimédia, qui diffuse des CD et DVD de spiritualité, participe à l'animation de Radio Ecclésia, la radio du diocèse de Nîmes. L'accompagnement des jeunes fait aussi partie intégrante de la mission d'évangélisation des Béatitudes. La communauté a notamment un apostolat dédié aux adolescents Espérance Jeune, qui propose des camps tout au long de l'année et tient le foyer vocationnel Saint-Augustin pour des lycéens, et fait aussi beaucoup de propositions pour des jeunes adultes, parmi lesquelles celle de l'association Mère et Prière ou de la baille Saint-Martin du Canigou. Merci Père Mouret pour votre participation et grande contribution dans cette émission. On parlait de la communauté des béatitudes. Eric Manelakiza vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine. Au revoir.